Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission de la série Croire d'hier à demain, produite par l'Institut de Pastoral des Dominicains pour Radio Ville-Marie. Au microphone, c'est Francine Robert. J'ai le plaisir ce matin de vous proposer une entrevue avec l'ancien évêque de Poitiers en France, Monseigneur Albert Rouet. Il était de passage à l'Institut de Pastoral en septembre dernier pour donner un cours. Il est connu surtout pour avoir initié dans son diocèse la mise en place de communautés chrétiennes locales dont le leadership local était assumé par des laïcs. C'est une expérience tout à fait stimulante, tant par ses succès que par les réflexions que Mgr Albert Rouet a développées. C'est ma collègue Sylvie Latreille qui animera cette entrevue. Elle est professeure en ecclésiologie. Sa compétence dans le domaine des modèles d'Église m'a amené à lui demander de le rencontrer pour vous. Et je les remercie donc tous les deux pour cette entrevue que je vous propose d'écouter à l'instant.
Monseigneur Rouet, bonjour.
Bonjour à vous, Sylvie. Bonjour aux auditrices, aux auditeurs de Radio Ville-Marie pour cette émission que je découvre en arrivant ici.
C'est avec joie qu'on vous accueille, Monseigneur Rouet, et je tiens à vous dire que vous êtes connu au Québec.
Ah bon?
À plusieurs titres d'ailleurs, premièrement par vos nombreuses publications. Vous avez traité entre autres l'art et la liturgie, la mondialisation, le christianisme, l'argent. Aussi en christologie, en ecclésiologie, en théologie, sur les prêtres, les sacrements, les vertus et naturellement sur Hilaire de Poitiers.
Que voulez-vous ma pauvre amie, puisque vous êtes en train d'énumérer tous mes crimes, je suis bien obligé de reconnaître mes enfants.
Effectivement.
Cela étant, je pense qu'il faut, à ces risques et périls, tenter de dire, dans le langage d'aujourd'hui, dans la culture d'aujourd'hui, cet héritage chrétien qui est toujours, comme dit l'Évangile, neuf et nouveau. Neuf dans son expression, dans les découvertes que le monde lui demande de faire, et ancien parce qu'il remonte au Christ.
Effectivement. Vous avez aussi publié avec des collaborateurs, des collaboratrices, hein, sur les expériences des communautés locales à Poitiers. Alors là aussi, vous êtes connu au Québec dans cette mise en œuvre des communautés locales. Déjà, dans l'Église du Québec, deux ou trois diocèses, hein, s'inspirent de ce modèle. Et en conséquence, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour pouvoir justement parler ensemble de cette expérience ecclésiale, pastorale dans votre diocèse à Poitiers. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais que vous puissiez nous retracer un peu la genèse de ce projet. Alors, d'où vient l'idée?
Alors, je voudrais faire deux remarques. La première remarque, c'est que le Christ n'a pas laissé de modèle défini. Aussi loin que les historiens remontent dans l'histoire du christianisme, on s'aperçoit qu'à l'origine, il y a des modèles d'Église. On connaît par exemple les modèles qui se rattachent à l'apôtre Paul. On connaît les Églises qui se rattachent, elles, à Saint Jean. Et puis, évidemment, celles qui se rattachent à Saint Pierre, dont il est question dans les Actes des Apôtres, mais également dans les écrits de cette époque-là.
Alors, si je comprends bien, dès les origines du christianisme, il y a eu une diversité, une pluralité.
Oui, une très grande diversité. On oublie par exemple un tout petit détail, que dans une ville comme Rome, jusqu'au IVe siècle, il y avait des églises qui se rattachaient à Paul et des églises qui se rattachaient à Pierre. Et que lorsque le 29 juin nous fêtons les apôtres Pierre et Paul, c'est en souvenir de la réunification de ces deux courants d'églises qui ne s'est produite que aux alentours du IVe siècle, donc après les persécutions, quand l'Église, visiblement, a pu avoir des relations publiques de communauté à communauté. Jusqu'alors, il fallait être quand même relativement prudent dans ce genre de relations. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect est tout à fait différent. Alors là, il faut que je parle du diocèse de Poitiers. C'est au centre de la France, à mi-chemin entre Paris et Bordeaux. C'est une région de passage, qui est, depuis la plus haute antiquité, même avant les Romains, parcourue par des routes nord-sud, n'est-ce pas, et des routes qui allaient du massif central, où il y avait des mines de fer, jusqu'à la mer. Donc le Poitou était un lieu de croisement, et on parle du seuil du Poitou. Alors ceci a une importance même pour aujourd'hui. Vous devinez bien que région de passage, vous allez avoir des axes, et ces axes, c'est à la fois ce qui apporte des contacts avec toutes les pensées, toutes les marchandises, et le christianisme est venu par ces axes, mais également, il faut s'en méfier parce que les invasions aussi sont passées par là. Tout le monde connaît 1732, Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers.
Tout à fait.
Donc c'est un pays à la fois traversé et en même temps réservé. Traversé par ses routes et réservé. Ce qui a donné, à l'époque actuelle, 604 paroisses différentes. Mais, et le mais est tout à fait important, avec de très grandes mutations de population. N'oublions pas que la France a connu, après la dernière guerre mondiale, donc après 1945, l'exode rural. 3 millions de paysans sont montés travailler dans les villes. Donc il y a eu une baisse du nombre de paysans, qui ne représentent plus guère aujourd'hui que 3% de la population. Ce qui veut dire que ces paroisses, c'est par conséquent chez nous les communes civiles, sont de petites réalités. 44%, c'est-à-dire pratiquement la moitié, des paroisses du diocèse ont moins, je dis bien, moins de 300 habitants.
Alors la moitié, là.
Ça pose énormément de problèmes, d'autant qu'il y a un second exode, enfin un second, un deuxième et un troisième exode qui se sont produits tout à fait récemment. Le deuxième, c'est que ces habitants, surtout les plus jeunes, quittent leur petite commune pour venir auprès des villes. La moitié de la population du diocèse habite sur 80 kilomètres de long. Et c'est quand même tout à fait considérable avec des banlieues qui ne cessent de s'étendre et de se développer. Alors, au XIXe siècle, on a reconstruit des églises, on a reconstruit des presbytères. Je n'ai pas l'argent. Et par conséquent, le défi était celui-ci. Comment l'église peut-elle se rendre présente quand elle n'a plus les moyens traditionnels de sa présence, c'est-à-dire le presbytère, l'église, le patronage, l'école et le dispensaire?
Qui ne répondait plus non plus à la réalité.
Alors, on peut toujours dire que quand on a de l'argent, on correspond à la réalité de ses moyens. Oui. Mais on ne correspond pas à la réalité forcément des gens.
Des gens.
Et alors, le troisième mouvement a été un repeuplement des campagnes. Mais pas par des paysans.
Par qui?
Par des citadins qui viennent prendre leur retraite, par des gens même qui travaillent, parce que par Internet maintenant, le télétravail, ça existe, et par un nombre conséquent d'Anglais, puisque il y a 20 000 Anglais habitant en Poitou.
20 000 Anglais.
Sur 805 000 habitants. C'est quand même une proportion importante. Alors, vous voyez bien que ces réalités humaines vont obliger à penser la présence de l'Église autrement. Il ne s'agit pas de délaisser l'espace rural, d'autant plus qu'il est en augmentation. Au moins là où il y a des routes importantes. Et en baisse, là où les moyens de circulation ne sont pas favorables. Alors que faire? Nous nous sommes, je dis nous parce que c'était vraiment un travail d'équipe, rappelé de plusieurs réalités. D'abord, la première réalité que j'ai mentionnée, c'est qu'il n'y a pas de modèle définitif. Et que l'église avec son clocher, son presbytère, monsieur le curé en soutane qui dit son bréviaire dans les allées bordées de buis et la queue du chat dans les pans de la soutane, enfin, c'est fini. Je me souviens avoir parlé avec nombre de prêtres aînés, plus de 80 ans, qui m'expliquaient qu'ils se sont retrouvés curés d'une petite paroisse de 200, 210 habitants vers 28, 29, 30 ans, et ils s'ennuyaient. Ça, on ne le dit pas, mais c'est la réalité.
C'était la réalité.
Et qu'est-ce qu'ils avaient à faire? Bon. Donc, ce temps-là est fini. Ça ne veut pas dire que l'Église est morte. Cela veut dire qu'elle a changé de visage, elle a à s'y prendre autrement. D'où le second point de notre réflexion, c'est qu'il existe, de par le vaste monde, un nombre important de diocèses qui sont organisés autrement que nous n'étions organisés. Ce n'est pas parce qu'un modèle devient obsolète, vieilli, que tout s'effondre et qu'il n'y a plus rien.
Et nous avions un modèle qui avait fait ses preuves dans l'histoire depuis plusieurs siècles aussi.
Le modèle paroissial, tout centré autour du curé, bon, il avait fait ses preuves, mais quand on ne peut plus mettre un curé par clocher, alors qu'est-ce qu'on fait? Je signale en passant que on calcule de très bizarres façons. On dit on manque de prêtres. Je parle de mon diocèse, hein. Bon. On manque de prêtres, mais réfléchissons deux secondes. Les auditeurs et auditrices ont fait tous un peu de calcul. Si au lieu de 604 paroisses, j'en avais 1208, je manquerais deux fois plus de prêtres. Mais si je n'en avais que 302, j'en manquerais deux fois moins. Voilà, c'est ça. Vous voyez bien que le manque est relatif à l'organisation.
Effectivement.
Bon, changeons l'organisation et peut-être bien qu'il n'y a plus de manque.
Et peut-être qu'il y aura un sens aussi.
Autre différent. Alors le second point, donc il y a dans le vaste monde, en Amérique latine, en Afrique, en Asie du Sud-Est, il y a déjà nombre de diocèses qui sont organisés autrement par des communautés qui portent des noms différents, communauté chrétienne de base, communauté évangélique de base, communauté chrétienne de quartier. Enfin, qu'importe le nom, il y avait là une autre façon d'assurer la vie de l'Église, le témoignage de l'Évangile, que par le modèle statique, hein, que nous avions connu. Alors, pour raconter un seul exemple, j'ai reçu il y a une dizaine d'années un collègue évêque d'un diocèse de Haïti, diocèse qui faisait 1 200 000 habitants, donc 30% de plus que le diocèse de Poitiers. Il avait 29 prêtres. Il y en avait encore 250 en activité à Poitiers, donc 10 fois moins. Et manifestement, cet évêque était venu avec un autre prêtre. Il n'avait pas l'air stressé, il n'avait pas l'air agité, il n'avait pas l'air écrasé. Mais il y avait 300 communautés véritablement sérieuses, construites et qui portaient à la vie de l'Église.
Alors déjà, il y avait là une autre manière de faire Église et qui,
tout à fait,
et qui répondait aussi aux exigences et aux besoins de la population. Il apparaît important, à un moment donné, de pouvoir justement faire Église en un lieu donné et que cela puisse avoir du sens aussi.
Alors, elle est évidemment la grande question, comment faire dans cette situation, alors que je n'avais évidemment pas un prêtre à mettre par clocher et que c'était probablement pas souhaitable. Je veux dire par là que 70 communes ont moins de 100 habitants. Est-ce que je vais mettre un prêtre pour aller, je vais donner les noms. Ça fera sourire les auditeurs. Pour Puyardy, 39 habitants. Pour Ulcotte, 70 habitants.
Oui.
Pour Torigny-sur-le-Mignon, 91 habitants.
Effectivement. Alors, entre en jeu, hein, cette question du modèle.
Voilà.
Mais en même temps, pour vous avoir écouté cette semaine durant le cours que vous avez donné à l'Institut, il y a aussi un horizon ecclésiologique et anthropologique qui fonde ce modèle. Autrement dit, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une mode. Il y a des fondements anthropologiques et ecclésiologiques.
Alors, on peut résumer votre question par un choix qui me paraît fondamental. Nous avions eu le choix devant cette situation entre deux types de solutions. Le premier type de solution que nous avons écarté, et je vais essayer d'en dire les raisons, c'est le regroupement. C'est-à-dire que vous prenez 10 paroisses et vous en faites une seule. En essayant de calculer le nombre de paroisses dans un diocèse, sur le nombre prévisible de prêtres à 10 ans.
C'est l'option qui a été prise dans son ensemble dans l'Église du Québec.
Et effectivement, c'était aussi pris en France. Alors, on peut réfléchir un petit moment sur ce modèle-là. D'abord, il va conforter le chef-lieu de l'endroit, c'est-à-dire la paroisse principale, c'est-à-dire qu'on va concentrer au chef-lieu tout ce qui concerne les autres paroisses. Ce qui veut dire qu'on condamne à mort les autres paroisses. Donc le rassemblement crée du vide. Quand même pas l'oublier. Deuxièmement, ce rassemblement joue à guichet fermé. Ça vous fait pas un chrétien de plus. Ça fait simplement que vous les déplacez pour la pratique religieuse vers le chef-lieu de canton et qu'on s'en va à la messe comme on va au supermarché acheter une savonnette. Je me demande si c'est la même chose. Donc, pour vivre, l'Église faut être ailleurs. Pour témoigner de sa foi, faut aller ailleurs. Et c'est-à-dire qu'on est toujours en train de se déplacer, mais que dans la commune considérée, là où on a été baptisé, là où on s'est marié, là où les parents sont enterrés, il n'y a plus de vie chrétienne réelle. Deuxièmement, il y a toujours une déperdition. Alors, si je peux expliquer, non pas par un tableau, mais oralement, mathématiquement, on peut prouver que plus on gagne ces guerres-là, plus on perd définitivement la guerre. Expliquons-nous. Prenez une paroisse de 1000 habitants, voilà 10% de pratique, il y a 100 personnes qui vont à la messe, et vous dites maintenant, pour tout le culte, vous irez à tel endroit. Vous en perdez 20% de gens qui ne se déplaceront pas, ils ne peuvent pas, ou ils ne veulent pas, ou tout ce que vous voudrez. Bon. Pour la paroisse qui reçoit, sa pratique religieuse va passer de 100 à 180. C'est miraculeux. Mais on a perdu 20%. Et voilà qu'en additionnant les chrétiens de ce territoire, vous avez à peu près un cinquième de perte. Et n'y vont que les plus convaincus. Donc l'espace missionnaire va en se diminuant. L'élan missionnaire va en se diminuant. Et puis les jeunes qui viennent pour le baptême de leur enfant, ils ont envie d'être baptisés dans l'église de leur communauté. C'est-à-dire que vous déracinez. Donc ce rassemblement-là, dont les communes civiles ne veulent pas, parce que l'État voudrait faire la même chose, et les communes civiles freinent tant qu'elles peuvent à ce genre de concentration. Elles sont d'accord pour une collaboration de moyens, mais ne veulent pas disparaître, puisqu'il y a des histoires locales extrêmement fortes. Alors, si vous prenez la solution du recentrement, cela veut dire que vous accentuez le côté administratif de l'Église.
Et vous-même, vous aviez écrit à un moment donné, les communautés locales ne partent pas d'une restructuration qui additionnerait les paroisses.
Non.
Elles partent des relations entre les personnes.
Tout à fait.
Et dans ce que vous nous dites aussi, je voudrais relever le fait que dans chacun de ces milieux que vous avez présentés tout à l'heure, on voit bien que chacun de ces milieux a sa propre histoire. Mmh. Et en même temps, ce sont des milieux d'affinité qui sont différents. Et par la prise en compte, justement, de ne pas faire ce qu'on a appelé aux États-Unis la « mega church », hein, ces immenses entités paroissiales, qui prend plus ou moins en compte ces données, spécificité des populations environnantes.
Exactement. Et alors, dernière nuisance du rassemblement, c'est la vie du prêtre. Il va passer son temps dans la voiture et les gens ne le verront plus qu'à travers la portière de sa voiture. Si je peux raconter une anecdote, je me souviens d'un prêtre, plein de fougue, le dimanche matin, il se mettait en aube. Il arrivait à une première paroisse, les gens avaient déjà fait les lectures. Donc il faisait la partie eucharistique, et dès qu'il avait dit la communion, donnait la bénédiction, laissait faire les annonces, reprenait sa voiture, et me disait « j'arrive à dire trois messes tous les dimanches matins ».
Alors voyez-vous, ça peut apparaître caricatural.
Non, c'est vrai.
Sauf que c'est vrai. C'est ce que j'ai
Alors je lui ai répondu, mon cher ami, achète-toi une Ferrari, tu arriveras à dire quatre messes. Mais vous comprenez, à ce moment-là, on privilégie l'objectivité du culte au détriment des relations personnelles.
Et des questions de sens.
Et des questions de sens, obligatoirement. Donc, les ennuis nous paraissaient... dites-vous bien, il n'y a qu'une seule réalité humaine qu'on peut regrouper sans que ça change, c'est le cimetière.
Il est là, hein?
Eh ben oui. Donc, il faut absolument changer de modèle. Et c'est là où, à la fois, le modèle ancien des communautés de Saint-Paul, comme ce qui se faisait dans d'autres régions de l'Église et du monde, nous a énormément inspirés et nous avons dit, eh bien, on y va, on le fait.
Ce que j'entends de vos remarques, de vos observations et de l'expérience dont vous témoignez à l'heure actuelle, c'est de poser les bonnes questions, d'avoir eu le courage de poser ces questions, de voir aussi comment est-ce que ça oblige à une conversion du regard. Parce que c'est pas juste un changement de modèle, comme question de mode, comme je disais tout à l'heure, mais c'est de convertir d'abord et avant tout son propre regard.
Oui.
Et en vous écoutant, il me semble que c'est la première disposition en tant qu'évêque que de consentir à cette conversion d'un regard compte tenu d'une réalité, hein, et du peuple de Dieu qui vous a été confié comme évêque aussi. Et à cela, j'ajouterais aussi que d'opérer des déplacements de la sorte, mais ça demande aussi à prendre des décisions et à agir. Et c'est ce que vous avez fait.
Je crois qu'effectivement, il faut prendre des décisions et agir. On peut pas se croiser les bras ou simplement augmenter un modèle ancien sous prétexte que ce modèle ancien n'est plus viable. Parce qu'à terme, on va augmenter la nécrose du tissu.
Je suis toujours en compagnie de Mgr Rouet, archevêque émérite de Poitiers. Dans la première partie, nous avons retracé un peu la genèse de ces communautés locales que vous avez implantées avec vos équipes dans votre diocèse, voire aussi les fondements théologiques, anthropologiques d'une telle prise de décision et quelques grandes orientations. Maintenant, j'aimerais ça, Mgr, si vous pouviez nous tracer un portrait des communautés locales. Autrement dit, à quoi ça ressemble?
Ah, bon, alors, il y a d'abord un coup d'œil premier, ce qui fait le lien avec ce que nous venions de dire. Je crois qu'il nous faut réfléchir au baptême. Le baptême, si on reprend la doctrine du Nouveau Testament, fait d'un chrétien un responsable de l'Église. C'est pas simplement un membre passif de l'Église, comme on peut être membre d'une association et jamais aller aux activités. Le chrétien, par le baptême, devient un membre actif de l'Église, donc responsable de la construction de l'Église. Ou alors, moi je fais la grève de la confirmation. C'est-à-dire qu'il faut être logique, n'est-ce pas? Ou on peut pas d'un côté célébrer un sacrement qui signifie le côté adulte de la vie de foi dans la confiance avec Dieu, et ne pas faire confiance aux gens à qui on a donné ce sacrement. Là, je crois qu'il y a un minimum de logique toute simple. Mais il faut au moins que l'évêque, oriente son diocèse dans la ligne des sacrements qu'il donne dans son diocèse. Bon. Et deuxièmement, nous sommes sur ce fondement qui est très 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 inscrit dans le Nouveau Testament. Nous nous sommes posé une autre question fondamentale. Qu'est-ce qui fait qu'il y a Église? Et c'est là où il y a une phrase du Christ dans saint Matthieu qui est revenue sans arrêt. Quand deux ou trois d'entre vous sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pas une question de nombre.
Ce n'est pas une question de nombre, c'est ce que...
Pas une question de nombre. Il va jouer, mais on va y revenir tout de suite, un petit moment.
Allez-y.
Il va jouer, mais je dirai comment. Donc, mais a priori, c'est pas une question de nombre. Bon. Pour qu'il y ait Église, il faut que trois charges soient exercées. C'est-à-dire, si l'annonce de la foi n'est pas faite, il n'y a pas d'église. Si la prière n'est pas assurée, il n'y a pas d'église. Si la charité n'est pas exercée, il n'y a pas d'église.
Dans le langage classique, ce sont les trois fonctions ecclésiales de l'Église.
Ce sont les trois fonctions.
Exactement.
Donc, nous nous sommes dit une communauté chrétienne, et je voudrais rappeler que communauté veut dire porter ensemble la même charge. Cum munus. Bon. Donc, la charge de tout chrétien, c'est de porter la foi, la prière, la charité. Et il faut se dire aussi qu'une communauté humaine vit normalement quand elle gère sa vie matérielle. Saint Paul le faisait, même le Christ le faisait, on sait qui l'aidait de ses subsides. Donc il faut un délégué à la vie matérielle, qui peut aller depuis l'argent de la quête jusqu'à l'assurance qui couvre l'Église, toute la vie matérielle, des bâtiments, de la vie d'une communauté. Si on fait une sortie avec les enfants du catéchisme, il faut au moins que la sortie soit assurée, donc que l'assurance soit prévenue. Enfin, il y a tout un côté matériel normal. Et pour coordonner ces quatre charges, il ne s'agit pas qu'elles soient en parallèle les unes à côté des autres.
Mais interreliées.
Il faut qu'elles soient reliées. Il y ait quelqu'un qui soit un peu le serviteur de cette équipe et qu'on appelle le délégué pastoral, n'est-ce pas? Donc vous avez cinq charges, quatre qui sont comme les quatre doigts de la main et le délégué pastoral qui est comme le pouce qui permet de prendre et de faire l'unité de cette petite communauté. Bon, alors le nombre, vous avez posé la question du nombre. Je ne suis jamais intervenu dans la question du nombre et mes proches collaborateurs non plus, alors qu'on a tout fait ensemble. Les gens sont assez grands pour voir le nombre qui, pour eux, reste à taille humaine. Parce que plutôt que le nombre, c'est toujours aléatoire, on va dire 153, non, c'est pas comme ça, c'est pas tant de personnes, c'est quelle est la taille humaine où on se connaît.
À partir de l'histoire qu'on partage ensemble.
À partir de l'histoire partagée. Alors, je vais donner deux exemples pour illustrer. La plus petite communauté locale fait 160 habitants. Ils sont entourés de forêts. Ils tiennent à être ensemble. Et depuis maintenant 15 ans, cette communauté vit tout à fait normalement. Pour consoler, la pratique religieuse a augmenté. Quand le dimanche matin, la communauté prie ensemble, il y a 40 personnes. C'est-à-dire un quart de la population. C'est quand même pas mal. Mais alors, ça devient très humain, parce qu'après la prière, on a donné les intentions de la grand-mère qui va pas bien, du petit-fils qui vient de naître, on prend un café ensemble, enfin, il y a toute une vie humaine qui fait que même la mairie est intéressée, parce que la communauté chrétienne participe à la vitalité de la commune. C'est très, très imbriqué. Bon. Et l'autre exemple, qui est une des plus grandes communautés du diocèse, c'est 8 anciennes communes, ça fait près de 3000 habitants, et c'est la seule fois où je me suis permis de dire, mais écoutez, c'est peut-être un peu trop. Ah, ils m'ont dit non.
Parce que
toutes les semaines, il y a un marché.
Ah,
et on s'y retrouve tous. Et on s'y retrouve tous. Voilà une très bonne raison.
Les appartenances, voilà. Les affinités.
Et c'est à taille humaine. Et la taille humaine peut être le nombre, premier exemple, ou peut être une activité en commun, second exemple. Parce que si on veut donner des responsabilités aux gens, il faut au moins que ces gens qui travaillent, qui ont une vie de famille, donc qui agissent comme des bénévoles, ils puissent avoir l'ampleur de cette tâche. Sinon, ils vont pas la comprendre et vont être écrasés par le travail à faire.
Et ils ont à connaître leur monde.
Ils ont à se connaître les uns les autres.
À se connaître les uns les autres. Oui. Effectivement, combien y a-t-il de communautés locales?
Quand je suis parti,
quand vous avez quitté,
320.
320.
Donc, on les a installés progressivement au fur et à mesure que les gens en étaient persuadés. Parce que là, c'est pas quelque chose qu'on peut imposer.
Non, j'ai compris à travers les lectures que justement, les demandes venaient du milieu.
Oui.
Ça partait des gens.
C'est très, 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 très important.
Et cette dynamique-là fait en sorte que les personnes, vous avez parlé de responsabilité tout à l'heure, par rapport au baptême.
Hein? Les gens comprennent.
Alors, les personnes comprennent.
Ils participent à l'émergence de leur propre communauté. Alors, la décision de créer des communautés locales a été prise en commun avec le conseil presbytéral et avec le conseil pastoral.
Alors, je rappelle, le conseil presbytéral, qui est cette réunion de tous les prêtres avec l'évêque du lieu, et le conseil de pastoral que nous retrouvons aussi dans nos églises du Québec.
Voilà. Et j'avais même demandé, puisqu'il y a un conseil des territoires, c'est des différentes régions du diocèse, on a pris un an entier de réflexion, et puis on a commencé. Et puis voilà, c'est parti.
Comme on disait tout à l'heure, de prendre le risque.
Oui.
Et de pouvoir agir, parce que c'était un grand changement dans le paysage paroissial.
Le plus grand changement, le plus grand changement pour moi, 17 ans après, ça a été de passer, je donnerai un exemple, ça a été de passer de la première réaction des gens. La première réaction des gens, c'est « on pourra pas, c'est pas pour nous, on saura pas, on n'est pas capable ». Ce qui est quand même assez pitoyable.
Pourquoi c'est pitoyable?
Enfin, est-ce que 20 siècles de christianisme, 17 siècles de christianisme en Poitou, ont fabriqué un peuple d'impuissants? Ces gens, ils sont hommes ou femmes, maires de leur commune, présidents d'associations, responsables d'une petite entreprise, ils dirigent une ferme, ils s'occupent de leur famille, et dans l'église, ils seraient mineurs? C'est pas crédible. Ce n'est pas crédible. Bon, donc on est parti de là. Donc il a fallu convaincre. Mais si vous êtes capable, allez, faut oser, mais si vous pourrez. Tu vois, à la joie profonde, après coup, des gens qui ont fait l'expérience.
Et qui réalisent que
c'est possible. Et qui réalisent d'un seul coup qu'ils étaient adultes, adultes dans l'Église, adultes dans la foi. Mais c'est fabuleux. C'est la fierté d'un père ou d'une mère de famille quand il voit ses grands enfants devenir adultes. Alors l'exemple que je vais raconter,
oui,
c'est...
Oui, allez-y.
c'est une tête d'épingle, c'est minuscule, mais pour moi ça dit tout.
Oui.
Installation d'une communauté locale, je tenais beaucoup à les installer. Il y a une célébration liturgique d'installation. Et c'est très fort, le rite.
Le rite, et ça
parle.
Officialise
oui.
aussi auprès
et
des...
transforme
monde.
Les gens.
Exact.
Donc la personne qui avait été élue déléguée pastorale devait dire un mot de remerciement à la fin au micro dans l'église. Et je vois encore cet homme raser les murs, venir en zigzagant auprès du micro et presque en tremblant, et parler, vous savez, non pas dans le micro, mais parler à côté du micro, et quand il tournait la tête, il portait le micro d'autre côté. Voilà ça. Et il se trouve que je m'y suis retrouvé dans cette communauté 3 ans plus tard. Et là, on avait un homme debout, qui a traversé de la même façon l'église, mais en marchant droit, qui a tenu son micro et qui a parlé correctement. Il avait acquis de l'humanité. Il était devenu droit dans son humanité. Et ça, c'est fabuleux.
Et
quand l'église produit des choses comme ça, ça, c'est, voilà, c'est merveilleux.
Et c'est très évangélique.
Je l'espère.
Ce qui me venait à l'esprit, c'est de voir justement la femme courbée qui est relevée par Jésus
ah oui.
et qui se tient droite.
Ah oui, oui,
hein?
Oui.
Et entre vous et moi, l'enjeu qui est sous-jacent, c'est la dignité humaine.
Alors, pour employer de très grands mots, bien sûr que c'est ça. Et l'Église doit montrer comment elle traite ses membres, si elle veut être crédible dans son message aux hommes d'aujourd'hui. Alors j'ai pris un exemple minuscule, mais moi, il me dit tout. Enfin, je revois cet homme, il est dans mes yeux. C'était bouleversant de voir la transfiguration. C'est très simple, c'est vraiment très très peu de choses. Il faudrait évoquer le nombre infini de petites expériences prises par les communautés locales, les petites décisions, de faire les courses d'une personne malade, de ramener les 3 gamins du village pour créer un catéchisme, alors il y avait 10 ans qu'il n'y en avait plus, enfin, etc.
D'ailleurs, dans un des livres que je lisais, vous soulignez le fait qu'un des thèmes fondateurs, c'est celui de la confiance, ce qui permet justement, de voir des hommes et des femmes, je dirais, vivre leur foi comme adultes.
Alors,
avec cette confiance qui leur est reconnue.
C'est très vrai. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut donner de plus? Pourquoi est-ce que nous sommes chrétiens? C'est quand même pas à cause de nos qualités. Ils sont pas ni meilleurs ni pires que celles des autres. Nous sommes chrétiens parce que Dieu nous a fait confiance. Et qu'il a même eu l'audace, faut vraiment être Dieu pour faire des trucs pareils, de confier son évangile, de confier son visage à des mains humaines. Ce qui se passe dans l'Eucharistie. Hein? Bon, quand vous recevez la communion, votre main est une crèche où Dieu naît. Enfin, quand on y réfléchit un petit peu, ça devient quand même assez troublant et très très fort. Et c'est ça ce qu'on a donné.
Et c'est une confiance fondamentale.
Et c'est la foi.
C'est la foi.
C'est la foi. Et comment peut-on dire « je crois en Dieu » si on ne fait pas confiance à son frère? Ce que les communautés locales révèlent, c'est, je dirais, des logiques très simples, mais très fortes, de la vie chrétienne. Ce que tu as reçu, tu le transmets. Tu as reçu la confiance, tu la partages. L'évangile t'est donné, t'en es responsable. Voilà. Des choses aussi simples que ça. Et je vous garantis que j'en ressors avec une profonde admiration pour le peuple de Dieu. C'est une très grande réalité. Très, très grande réalité.
Et c'est déjà là une option ecclésiologique?
Je le pense.
Moi aussi. Je suis toujours en compagnie de Mgr Rouet, évêque émérite de Poitiers. Nous sommes à regarder le portrait des communautés locales et vous me disiez tout à l'heure, ce n'est pas nécessairement le paradis. Il y a eu des défis, des résistances. Alors, pouvez-vous nous en parler un peu?
Oui, parce que quand on regarde le Christ avec ses disciples, ses apôtres, les 12, il y en a un qui l'a vendu. Le chef l'a trahi, les 10 autres ont fichu le camp. Bon, il nous sera au moins difficile de faire pire. C'est au moins une consolation. Mais cette humanité-là, c'est avec elle que Dieu travaille. Alors l'exemple auquel je pensais, c'est extrêmement simple. Il y a deux métiers dans nos petits pays ruraux, il y a deux métiers extraordinaires. C'est le bistrot, on sait ce que c'est ici le bistrot.
Oui,
le bistrot et le boulanger. Bon, alors je vois une communauté où c'est une femme qui tenait le bistrot local, elle était déléguée pastorale, c'était prodigieux.
Oui.
C'était prodigieux parce que comme ça toute la commune connaissait les heures d'office, les heures de catéchisme, c'est extraordinaire.
Ah oui,
c'est une femme qui avait un rayonnement. Bon. Alors l'autre exemple est moins drôle. Dans une petite commune, la boulangère était chargée de l'annonce de la foi. La boulangère, 32-33 ans, belle femme, deux enfants mignons. Tout ça marchait très bien. Enfin, c'est bien que l'inscription au catéchisme, ça se faisait à la boulangerie. Ça ne pouvait pas se faire ailleurs.
Ça ne pouvait pas se faire ailleurs.
Mais c'était tellement naturel, tellement normal.
Et c'est l'endroit du pain.
Et c'est le pain. Voilà, tout jouait. Et ne voilà-t-il pas que, un beau jour, cette femme s'éprend du petit mitron, c'est-à-dire de l'ouvrier boulanger, et part avec lui.
Oh.
Alors, vous devinez la peine du mari, des enfants, mais dans la communauté locale, c'était un coup terrible. C'était un coup terrible. Alors, comme toujours dans ces cas-là, la communauté se divise. Alors, il y en avait un groupe qui disait « Elle ne peut plus faire le catéchisme, c'est honteux, c'est un scandale pour notre communauté, à quoi on ressemble, donc on ne veut plus la voir. » Et l'autre groupe disait « Le Christ a pardonné à la femme adultère, donc il faut l'accueillir, ses problèmes de morale ne concernent pas son engagement. » Ça montait. Et alors là, on voit combien le prêtre a très très bien su jouer. Le prêtre est venu, et c'est lui qui a tout apaisé. Le prêtre leur a dit, mais écoute, c'est d'abord son histoire. Avant de voir si elle est utile ou pas utile à la communauté, de toute façon, elle est partie. Peut-être bien qu'il faudrait la considérer comme personne. C'est une histoire de personne humaine. Bon, ça ne veut pas dire qu'on approuve, mais ça veut dire que devant une blessure comme celle-là, on ne peut pas réagir simplement en inclusion-exclusion. Comme si on oubliait l'histoire de la personne. Il faut peut-être lui laisser le temps de se retrouver, savoir quelle décision elle va prendre, ce que son mari va faire, ce que deviennent les enfants. Donc il a mis les personnes en avant. Et là, on voit très bien que plus on a des communautés vivantes, et elles étaient très vivantes celles-là, plus le rôle du prêtre est important. C'est autrement dit, les communautés locales, loin de diminuer le rôle du prêtre, le déplacent, parce qu'on attend de lui autre chose, mais renforcent sa nécessité.
Et comme les liens sont plus serrés et comme les personnes se connaissent plus les unes et les autres, cela aide et contribue justement à être plus attentif aux situations que les personnes
vivent.
On sort de l'anonymat.
Pour le bien et pour le mal.
Oui,
pour le bien, c'est-à-dire qu'on se connaît, on peut se parler, on partage les joies et les peines. Mais pour le mal aussi, c'est quand il y a un ennui comme ça...
Ça touche tout le monde.
Hein, ou quand une communauté... J'ai vu des choses admirables quand une communauté porte la maladie, le cancer qui a été très très long de son délégué pastoral, quand elle porte la maladie de son prêtre. C'est des communautés qui ont porté leur prêtre. Parce que le prêtre, il a plusieurs communautés, donc il fait le lien. Et là, on voit bien son rôle de ministre de la communion. Il fait le lien entre les communautés. Alors quand tout se passe bien sur le papier, c'est merveilleux. Mais quand vous avez un prêtre qui a d'un seul coup une attaque cardiaque, hein, et que les prêtres les plus proches sont à 10 km ou 15 km ou 20 km, on fait quoi? Et que la communauté s'occupe de lui, va le voir à l'hôpital, l'aide à revenir à domicile, lui dit non, la messe vous la direz assis parce qu'il faut pas vous fatiguer. Il y a une maturité humaine et chrétienne qui s'est exercée là, qui est directement de l'Évangile. C'est directement de l'Évangile.
Et justement, les communautés locales, elles sont aussi accompagnées par les équipes pastorales, dont le prêtre est membre.
Alors, une équipe pastorale, voilà, si vous voulez, pour nous, ce qui est très très important, c'est que les responsables d'une communauté locale le font au niveau de leur baptême. C'est l'expression normale du baptême. Ce n'est pas un ministère, c'est simplement le fait que des chrétiens vivent ce que l'Esprit leur donne. L'équipe pastorale, le prêtre, le diacre, Il y avait 42 diacres dans le diocèse permanent. Et puis les laïcs, les agents pastoraux, ont reçu une lettre de mission et ont toujours, au niveau de la communion de ces communautés, une tâche de relation, de lien, de ligament, de jointure, d'articulation. Parce que c'est cette articulation qui est ministérielle. Okay. Voilà, c'est pas notre bon voisinage ou notre bon caractère qui crée les liens, c'est ce service de l'Évangile de constituer le corps du Christ.
Votre dernier bouquin, vous avez fait de moi un évêque heureux, qui est le titre. Un collègue disait de voir comme titre l'expérience, vous avez fait de moi un évêque heureux. Et il y a le passif hein, dans la formulation. Hein. Vous n'avez pas dit « je suis un évêque heureux », mais « vous avez fait de moi un évêque heureux ». On peut soupçonner déjà toute la relation avec ces communautés locales et toutes les équipes aussi avec lesquelles vous avez travaillé et le peuple de Dieu qui vous avait été confié. Qu'est-ce qui vous a rendu heureux, Monseigneur Rouet?
C'est vrai. Cette phrase, je l'ai prononcée au dernier pèlerinage diocésain à Lourdes. Et la personne qui est responsable de la communication du diocèse de Poitiers était là, l'a entendue, et s'est dit, avec le responsable du centre théologique, on va faire parler notre évêque là-dessus. Bon, alors autrement dit, je me suis trouvé piégé. Très bien. Ce qui m'a rendu heureux, c'est la confiance partagée avec les gens. C'est le fait que on pouvait parler partout dans mon diocèse, des joies, des peines, aussi librement que nous parlons en ce moment. Qu'il n'y avait pas de sujet interdit. Il y a eu des moments, vous savez, dans la vie d'un diocèse, en 17 ans, il y a nécessairement de grosses peines. On les a portées ensemble. C'est-à-dire qu'on a pu vraiment avoir cette simplicité de relation, de se dire ce qu'on avait d'un côté et de l'autre à se dire. C'est aussi l'admiration extraordinaire devant ce peuple qui est vivant, qui prend des initiatives, mais c'est tout petit, c'est humble, mais c'est tellement beau. Et qui peu à peu devient un peuple adulte. Et qu'à ce moment-là, on ne peut plus commander comme on commande anonymement, mais on marche avec. C'est-à-dire, on est passé du capitaine de navire sur sa passerelle à Emmaüs. On marche ensemble, et ça c'est une joie extraordinaire. Et vraiment, le mot n'est pas trop fort. J'ai vécu ma présence à Poitiers comme une profonde joie et j'en vis toujours.
Il y a eu des peines, vous l'avez mentionné. Il y a eu certainement des résistances aussi qui ont été rencontrées, des défis à relever. J'imagine que le temps que la population, les chrétiens, les chrétiennes puissent découvrir aussi la fécondité des communautés locales.
Là, je vais faire une distinction pour moi qui est, disons, dans ma psychologie probablement, très très importante. Il y a deux sortes d'ennuis. Il y a des ennuis stimulants. Vous êtes devant une difficulté, il faut la surmonter. Oui. Vous êtes devant des gens qui ne comprennent pas, il faut les convaincre, il faut les persuader, donc il faut discuter. Donc ça, ce sont des ennuis utiles.
Ça va dénouer une situation.
Voilà, c'est des ennuis heureux, même s'il faut du temps, même si c'est lent, même si c'est long. Mais il y a des ennuis inutiles, il y a des ennuis qui freinent. Et ces ennuis qui freinent, ce sont toujours les mêmes. Et c'est eux qui sont pénibles. C'est l'ennui du pouvoir. La personne qui a un pouvoir sur les autres et qui veut garder ce pouvoir. Donc, tel ou tel endroit n'a pas pu faire nos communautés parce que il y avait telle famille ou tel prêtre qui voulait garder la totalité du pouvoir. Et là, on peut rien, sinon faut casser la personne. Je me parais pas évangélique de casser la personne.
Et c'est arrivé.
Bien sûr. Pourquoi voudriez-vous que ça n'arrive pas? Il y a l'amour de l'argent. Ça vous paraît bizarre, mais l'amour de l'argent, c'est le fait que d'une communauté à l'autre, il y avait un partage d'argent. Il y en avait un qui avait un petit magot, puis d'autres qui n'en avaient pas. Et le fait que, au fond, on voulait pas partager avec l'autre. Que son argent, on le gardait pour soi, et que les autres, ils avaient qu'à faire... Or, il y a de profondes injustices. Il y a des communautés qui avaient à charge leur église et le presbytère, et d'autres qui n'avaient rien à charge. Alors, celles-là, évidemment, elles gardaient tout. Enfin bon, Et ça, c'est très difficile. Et la troisième difficulté qui est difficile à surmonter, c'est quand quelqu'un a soif de dignité, prêtre ou laïc, hein, a soif de dignité, a soif de reconnaissance, et pour qui le fait de devenir prêtre ou le fait d'être délégué pastoral, c'est une promotion. Et là, on est devant des comportements affectifs à peu près irraisonnés. Et ça, je reconnais que c'est des plaies au corps de l'Église, c'est des plaies aux côtés de l'Église, et qu'un évêque en souffre. Bon. Alors, évidemment, après, vous pourrez me dire, et c'est vrai, il y a la limite de l'évêque. Bon, j'ai peut-être tort, mais je crois qu'il faut se prendre comme on est, hein. Je me suis retrouvé sans vraiment l'avoir cherché, évêque de Poitiers, une fois que le vin est tiré, il faut le boire. Bon, voilà. C'est ni un drame, ni un compliment, c'est un service à rendre. Et là, faut être très très positif. Mais c'est plutôt les trois autres. L'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, l'amour de la renommée. Et ceux qui aiment la renommée ont toujours avec eux un petit groupe de personnes fanatiques qui les suivent en tout, qui les défendent pour tout, mais en même temps, qui les emprisonnent. Bon, voilà.
Les chemins d'espérance, Monseigneur Rouet, dans la mise en œuvre des communautés locales, ça fait déjà quelques mois que vous êtes retiré. Aujourd'hui, même à quelques mois de distance, qu'est-ce que vous gardez, vous portez au cœur à la suite de cette expérience?
Alors, des choses qui ont été faites et puis des choses qu'il faudrait faire. Mais bon, je suis parti, hein. Faut accepter. L'âge est là.
Mais ça vous empêche pas de continuer à rêver quand même.
les choses qui sont faites et qu'il faut à tout prix maintenir, c'est cette confiance. C'est le côté adulte et responsable des chrétiens. Et c'est la fraternité entre les communautés qui réellement existe. Maintenant, ce qu'il faudrait accentuer, il faut aider les communautés à sortir d'elles-mêmes. C'est-à-dire à se rendre compte qu'il y a autour d'eux un autre monde avec lequel il faut entrer en contact. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous imaginez le petit village rural avec la place, il y a la mairie, il y a l'église, les vieilles maisons autour, et puis un peu plus loin, en bordure du village, il y a quelques maisons neuves, avec une autre population, plus jeune, qui est là et qui travaille ailleurs. Et bien souvent, il n'y a pratiquement pas de contact entre les deux types de populations. Il faut que nos communautés sachent s'ouvrir, se renoncer à elles-mêmes et entrent en contact avec ces nouveaux groupes. Et là, on a un impérieux besoin du type de regard, du type d'analyse et de présence des mouvements d'action catholique. Donc ça, il faut à tout prix le continuer. Ensuite, il y a la question très délicate des jeunes. Alors, elle demanderait beaucoup de temps, mais les jeunes chez nous sont inaccessibles. Un quart scolaire les ramasse le matin à 6h30 ou 7h.
Ils reviennent en fin de journée très tard.
Ils reviennent fatigués en fin de journée très tard. Et pas simplement l'Église, mais personne ne peut avoir de contact avec eux. En plus, très rapidement, dès l'adolescence, ils sont dans des établissements différents. Autrement dit, on a une jeunesse inaccessible. J'admire ce qui se fait pour eux. On ne peut pas dire que le diocèse de Poitiers n'ait pas de contact avec les jeunes. C'est absolument faux. Il y en a tellement d'autres qui sont dans d'autres mondes. Et très particulièrement, un problème lancinant, ce sont les pauvres à la campagne et les pauvres jeunes à la campagne. Je vais donner deux exemples. Voilà, vous avez 19 ans, vous n'avez pas de travail, il n'y a pas de perspective de travail. Qu'est-ce que vous faites à part acheter un pack de bière et vous enivrer dans la nuit du vendredi? Et toutes les nuit du week-end, dans le diocèse, il y avait un ou deux morts et quatre ou cinq comas éthyliques.
Comme s'il n'y avait pas d'avenir.
Voilà, bien sûr. Alors comment des adultes peuvent redonner espérance et confiance à cette jeunesse-là? Et également l'autre, le Poitou est une terre moins chère que les villes environnantes, Nantes, Angers, Tours et Orléans. Donc des ménages pauvres viennent vivre là. et on se trouve dans des petits villages avec une dizaine d'enfants qui ont 8, 9, 10 ans, bon, qu'est-ce qu'ils vont devenir quand ils auront 12, 14 ans? Qu'est-ce qu'ils feront pendant les vacances?
Oui.
Et là, voilà deux problèmes de type de pauvreté qui se cache, qui est une pauvreté rurale et qui enferme les gens dans une misère dans laquelle, de fait, ils s'enlisent. Et je crois qu'il y a une responsabilité des chrétiens envers ce type de population. Et là, il faut d'abord avoir des chrétiens adultes, des chrétiens responsables, pour qu'ils puissent aller vers ce type de population. Et recevoir d'aide, les accueillir comme des frères, et pas simplement s'occuper d'eux.
Et on s'aperçoit à ce moment-là comment est-ce que du fait que ce soit dans un milieu à taille humaine, comme vous le disiez tout à l'heure, peut permettre justement de créer des liens plus aisément.
Oui, oui, et vous avez raison Sylvie, et en même temps, je ne sais pas comment c'est ici, mais dans nos campagnes, tout se sait.
Au Québec aussi.
Eh bien, par conséquent, les misères se cachent. Et on fait tout pour ne pas montrer sa misère et ne pas avoir honte de sa misère. Et c'est là où la taille humaine qui favorise le contact doit se doubler d'une immense délicatesse pour que l'approche ne soit pas perçue comme une honte. Et c'est très, très délicat. Et nous faisions des formations à l'exercice de la charité dans ce sens-là.
Monseigneur Rouet, je ne sais pas comment vous remercier.
C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité d'abord.
Et vous dire le plaisir que cette semaine, justement, à l'Institut pastoral, nous avons eu dans le cadre du cours que vous avez donné. Et comment est-ce que les étudiants, les étudiantes sont sortis d'ici en voyant beaucoup d'espérance et en nous aidant à continuer notre chemin aussi avec et dans cette Église que nous aimons.
Alors, bonne route.
Merci.
Merci à vous.
Encore un grand merci à Sylvie Latreille et surtout à Mgr Albert Rouet. Sylvie Latreille nous reviendra aussi en novembre. Elle nous parlera des expériences concrètes dans les églises d'ici, des expériences originales, mobilisatrices et qui, je dirais, stimulent notre espérance aussi. Je mettrai sur le site internet de l'Institut les titres des publications de Mgr Albert Rouet. C'est Francine Robert au microphone. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette émission de la série Croire d'hier à demain produite par l'équipe de l'Institut de Pastoral pour Radio Ville-Marie. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine et d'ici là, bonne semaine sur les ondes de Radio Ville-Marie.